France Culture.
Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Une dangereuse boîte à musique. Plus précisément, la possession dangereuse d'une boîte à musique. Une hache qui traîne et voici un pauvre homme expédié bien loin de cette vallée de larmes, gênant. Une grenouille sauteuse plombée et nous voici partis dans la lecture de deux nouvelles américaines. Première diffusion de ces nouvelles du monde entier, le 31 octobre 1961 sur France 3 nationale.
Au cours d'une série d'émissions sur les nouvelles du monde entier, Alain Bosquet et Harold Portnoy se proposent de vous présenter les pages les plus remarquables que ce genre littéraire a suscité dans tous les pays. Ils continuent aujourd'hui leur étude des aspects les plus caractéristiques de la nouvelle américaine en vous parlant de l'humour toujours noir, ou du moins noirâtre, qui s'y rencontre souvent. Vous pourrez entendre au cours de cette émission le texte intégral d'une nouvelle d'Ambrose Bierce, L'imparfaite conflagration, lu par Patrice Galbeau, et de larges extraits d'une nouvelle de Mark Twain, La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras, lu par Henri Virlogeux.
Un beau matin de juin 1872, j'assassinai mon père, ce qui à l'époque me fit une profonde impression.
Nous venons d'entendre la phrase initiale d'une nouvelle d'Ambrose Bierce, L'imparfaite conflagration. Le caractère insolite, surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce début, en dit déjà long sur la suite de cette nouvelle et sur l'esprit de cet auteur. Qui est Ambrose Bierce?
Je ne veux pas même me poser la question, je préférerais qu'on dise quand est-ce que cette nouvelle a été écrite et pour quelles raisons sociales? Y a-t-il des raisons sociales? Je crois que pour l'Amérique, il y a toujours des raisons sociales, contrairement à la France où il y a tant d'écrivains en tour d'ivoire. En Amérique, eh bien, ce sont non pas des tours d'ivoire, mais des marécages, ou alors écrivains qui sont traqués par leur propre époque. Et je crois que là, il y a, chose curieuse, une accointance entre cet Ambrose Bierce qui écrivait ce texte vers 1900 et toute une tendance de la littérature mondiale de la même époque. Rappelons-nous que vers 1900, la paix avait été très longue, que la bourgeoisie s'ennuyait et qu'elle tombait de maniérisme en maniérisme. C'est l'époque où, chez nous, un Pierre-Louis réinvente une Grèce antique un petit peu voluptueuse. C'est l'époque également où Anatole France se laisse aller également à des volutes. C'est l'époque où Octave Mirbeau s'occupe des tortures chinoises. C'est l'époque en Angleterre où un Oscar Wilde est lui-même perdu entre des dentelles et des falbalas. Eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'en Amérique, vers 1900, il n'y ait eu un mouvement à peu près du même ordre. C'était, au fond, une manière de réagir contre cet ennui qui gagnait le monde, cet ennui également qui faisait que les grands problèmes de l'heure, eh bien, ils étaient résolus pour l'instant. Il n'y avait pas, si vous voulez, de révolte sociale, il n'y avait pas de besoin réel de recommencer une fois encore la littérature réaliste de la génération précédente, celle des Tolstoï et celle des Dostoïevski, et on se laissait aller ainsi à des petits riens cruels. Eh bien, il y a cela dans Ambrose Bierce, cette cruauté absolument gratuite parce que on est arrivé à un byzantinisme parfait. Mais il y a autre chose. Il y a aussi que tout à coup, cette grande république américaine du président Theodore Roosevelt donnait des signes d'impérialisme certain. C'est la guerre de Cuba et les vrais démocrates en Amérique réagissent contre un gouvernement qui ne correspond plus du tout à ce que l'Amérique avait été pendant la guerre de sécession et cette grande démocratie naissante. C'est pour cela qu'il y a une sorte de désespoir à l'égard de cette société. Un Ambrose Bierce est un homme qui sombre dans le désespoir le plus complet, l'ironie la plus acerbe, justement parce que la société dans laquelle il se trouve est désormais coupable de tous les crimes de l'ancienne Europe. Et il est impossible pour lui d'accepter que cette société agisse ainsi. Par conséquent, pour s'en venger, eh bien, il prônera presque l'anthropophagie, en tout cas le crime, et ce sera une sorte de vague à la fois de désespoir et de crime parfait, de roman noir, d'humour noir et quelquefois d'humour teinté également de rose.
Les auditeurs aimeraient sans doute faire plus ample connaissance avec le héros de l'imparfaite conflagration qui assassina son père par un beau matin de juin 1872, ce qui, il faut le noter, lui fit une profonde impression.
Un beau matin de juin 1872, j'assassinai mon père, ce qui à l'époque me fit une profonde impression. C'était avant mon mariage, lorsque j'habitais avec mes parents dans le Wisconsin. Mon père et moi, nous nous trouvions dans notre bibliothèque à partager le produit d'un vol que nous avions commis cette nuit-là. Il consistait en grande partie en objets de ménage qu'il était difficile de distribuer de manière équitable. Nous nous entendîmes très bien sur les serviettes, les essuie-mains et les choses de ce genre. L'argenterie aussi fit l'objet d'un partage extrêmement judicieux. Il ne faut pas être grand clair, cependant, pour comprendre qu'il y a malentendu pour qui essaie de partager en deux, et sans léser ni l'une ni l'autre partie, une seule boîte à musique. C'est cette boîte à musique qui est la cause du désastre et de la disgrâce qui s'abattirent sur ma famille. Ne l'eussions-nous pas volé que mon pauvre père serait encore vivant. Elle était d'un travail à la fois fort joli et tout à fait exquis, marquetée de bois précieux et sculptée de curieuses façons. Elle jouait non seulement une grande variété de morceaux, mais elle gloussait comme la caille, aboyait comme le chien, et elle chantait tous les matins à l'aube, qu'on la remontât ou non. Bref, elle insultait aux 10 commandements. Et c'est cette dernière vertu qui alla au cœur de mon père et lui fit commettre la seule action déshonorable de sa vie. Bien que sans doute, il en eût commis bien d'autres si je l'avais épargné. Il essaya de me cacher la boîte à musique et me jura sur son honneur qu'il ne l'avait pas prise, alors que je le soupçonnais d'avoir entrepris le vol dans le but principal de s'en emparer. Mon père avait dissimulé la boîte à musique sous son manteau, car nous avions pris un manteau pour mieux tromper les apparences. Il m'avait assuré avec solennité ne point l'avoir prise, et moi je savais le contraire, et je savais un détail en plus qu'il ignorait. La boîte allait chanter à l'aube et le trahir, si je parvenais seulement à prolonger jusque-là le partage du butin. Tout se passa comme je le voulais. Comme le gaz commençait à pâlir dans la bibliothèque et que le contour des fenêtres apparaissait derrière les rideaux, un long cocorico retentit dessous le manteau du vieux gentilhomme, suivi de quelques mesures d'un air de Tannhauser qui s'achevèrent par un déclic bruyant. Une petite hache, qui avait servi à nous introduire dans la malheureuse maison, se trouvait entre nous sur la table. Je la saisis. Le vieil homme, voyant que le mensonge devenait inutile, écarta son manteau et déposa la boîte devant moi. « Eh bien, tranche-la en deux si tu préfères t'en tenir à notre accord, dit-il. J'ai simplement voulu empêcher qu'elle soit détruite. » Mon père était un amant passionné de la musique. Il jouait lui-même de l'accordéon avec sensibilité et fougue. Je lui dis « Je ne mets pas en doute la pureté de tes intentions. Il serait présomptueux de ma part de juger mon père. » Mais les affaires sont les affaires, et à l'aide de cette hache, je m'en vais mettre un terme à notre association, à moins que tu ne consentes à porter dans tous nos vols futurs une clochette. « Ah non, dit-il après avoir réfléchi, non, 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 je ne pourrais pas, ce serait admettre que j'ai été malhonnête, les gens diraient que tu n'as pas confiance en moi. » Je ne pus m'empêcher d'admirer son courage et sa sensibilité. Un court instant, je fus fier de lui, et m'apprêtai à lui pardonner son erreur, mais un coup d'œil sur la boîte à musique aux riches bijoux accéléra ma décision. et comme je l'ai déjà dit, j'expédiai le vieil homme hors de cette vallée de larmes. Ceci fait, je me sentis quelque peu mal à l'aise. Il était non seulement mon père, l'auteur de mes jours, mais on découvrirait certainement le corps. Il faisait jour à présent, et ma mère pouvait entrer dans la bibliothèque à tout instant. Vu les circonstances, je crus plus pratique de disposer d'elle à son tour, ce que je fis, puis je payai grassement les domestiques et les remerciai. L'après-midi, je m'en dis chez le commissaire de police, lui racontai ce que j'avais fait, et lui demandai conseil. Il eût été extrêmement pénible que les événements fussent publiquement connus. Ma conduite serait de façon générale mal jugée, les journaux me la reprocheraient si jamais je postulais un emploi officiel. Le commissaire comprit le bien fondé de ces considérations, il était lui-même un assassin de grande expérience, et après avoir pris l'avis du président de la cour, il me conseilla de cacher les corps dans l'une des étagères, de prendre une grosse assurance sur la maison et d'y mettre le feu. Je m'empressai d'agir de la sorte. Dans la bibliothèque se trouvait une étagère que mon père avait achetée à quelque inventeur besogneux et qu'il n'avait pas remplie. Elle avait à peu près la forme et la taille des vieilles armoires que l'on voit dans les chambres à coucher, sans tiroir, mais que l'on peut ouvrir jusqu'en bas, comme les chemises de nuit que portent les femmes. Elle avait des battants de verre. J'avais étendu mes parents sur le dos depuis quelque temps déjà, ce qui fait qu'ils étaient assez raides pour rester debout. Ainsi, je les dressai dans l'étagère dont j'avais enlevé les planches. Je les enfermai, puis fixai des tentures par-dessus les battants. L'inspecteur des assurances passa une demi-douzaine de fois devant le meuble sans jamais rien soupçonner. Cette nuit-là, ayant obtenu ma police d'assurance, je mis le feu à la maison, puis par les bois gagnai la ville qui se trouvait à 3 kilomètres et m'arrangeai pour qu'on m'y découvre au moment où l'excitation était à son comble. Avec force cris de détresse que motivait le sort de mes parents, je me joignis aux gens qui accoururent et arrivai au lieu de l'incendie 2 heures après l'avoir allumé. Toute la ville était là pour me voir me précipiter. La maison avait entièrement brûlé. Mais au milieu des cendres ardentes se dressait l'étagère. Les tentures avaient disparu, exposant les vitres, à travers lesquelles la lumière rouge et terrible illuminait l'intérieur. Mon cher papa se dressait là comme s'il vivait encore, avec à ses côtés la compagne de ses joies et de ses peines. Pas un de leurs cheveux n'était roussi, et leurs vêtements étaient intacts. La tête et le cou portaient les blessures que, dans l'accomplissement de mes desseins, j'avais été forcé de leur infliger. Elles étaient visibles au plus haut degré. Comme en présence d'un miracle, les gens se taisaient. La crainte et la terreur paralysaient les langues. J'étais moi-même d'ailleurs fortement ému. Quelques 3 ans plus tard, lorsque les événements dont il est question ici eurent presque disparu de ma mémoire, j'allai à New York pour faciliter la distribution de quelques faux billets de banque des États-Unis. Comme je regardais un jour distraitement la devanture d'un marchand de meubles, je vis la réplique exacte de l'étagère. Je l'ai achetée pour quelques sous d'un vieil inventeur, m'expliqua le marchand. Il prétend qu'elle est ininflammable, car les pores du bois sont remplis d'alun sous pression hydraulique, et les vitres sont en amiante. Je ne pense d'ailleurs pas qu'elle soit vraiment ininflammable, et vous pouvez l'avoir pour le prix d'une étagère ordinaire. Ah non, lui dis-je, pas du tout. Si vous ne pouvez me garantir qu'elle est ininflammable, je ne la prendrai pas. Je ne l'aurais achetée à aucun prix. Elle ravivait des souvenirs. On ne peut plus désagréable.
Qu'il soit noir comme chez Ambrose Bierce ou qu'il soit rose, l'humour est un élément non négligeable de la littérature américaine.
C'est un élément d'autant plus important que je crois qu'on a exagéré le côté rose de celui qui est le père de l'humour américain, de celui dont on a dit qu'il a appris à rire à son pays, Mark Twain. Je crois que Mark Twain est l'un des hommes les plus désespérés qu'il soit. Il y a chez lui quelquefois une ironie calme, il y a une manière de ne pas dynamiter toutes les institutions, toutes les mœurs américaines. Il y a quelquefois un poète souriant qui, au lieu d'être désespéré, retiré tout simplement est triste, mais je crois que du fait que les enfants le lisent, du fait que chez nous c'est plutôt entre 13 et 15 ans que l'on s'attache à l'œuvre de Mark Twain, on a oublié que c'était un homme féroce, que cet humour rose dont on a tant parlé est au fond noirâtre. Et si tout à l'heure je disais que quelquefois l'humour noir d'Ambrose Bierce est teinté de rose, il faudrait dire au contraire que l'humour quel qu'il soit est toujours noirâtre là-bas. D'ailleurs, il suffit de se rapporter à la biographie de ce grand écrivain qu'est Mark Twain pour voir quelle vie atroce il a eue, à la fois comme porte-parole d'une certaine action sociale et aussi dans sa vie privée. C'est tout de même l'homme qui, à la manière d'Ambrose Bierce, n'est-ce pas, envoyait un télégramme au président des États-Unis, à Theodore Roosevelt, à la suite de la guerre, de l'agression contre Cuba, et qui proposait que le Parlement américain changeât la bannière étoilée en drapeau noir à bandes parallèles noires et au lieu d'étoiles, des têtes de mort.
Voici maintenant une nouvelle de Mark Twain, la célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras.
Pour faire droit à la requête d'un ami qui m'écrivait de l'Est, j'allais rendre visite à ce brave garçon et vieux bavard de Simon Weller. Je lui demandais des nouvelles d'un ami de mon ami, Leonidas William Smiley, comme j'en avais été prié, et voici le résultat. J'ai un vague soupçon que Leonidas William Smiley n'est qu'un mythe, que mon ami ne l'a jamais vu, et que dans sa pensée, si j'en parlais à Simon Weller, ce serait simplement pour celui-ci une occasion de se rappeler son infâme Jim Smiley, et de m'ennuyer mortellement avec quelque exaspérant souvenir de ce personnage, histoire aussi longue, aussi ennuyeuse que dénuée d'intérêt pour moi. Si c'était son intention, il a réussi. Je trouvais Simon Weller somnolent, d'un air confortable, près du poêle, dans le bar-room de la vieille taverne délabrée, au milieu de l'ancien camp minier de l'Ange. Je remarquais qu'il était gras et chauve, et qu'il y avait une expression de sympathique douceur et de simplicité dans sa physionomie. Il se réveilla, il me souhaita le bonjour. Je lui dis qu'un de mes amis m'avait chargé de prendre quelques informations sur un compagnon chéri de son enfance du nom de Leonidas William Smiley, le révérend Leonidas William Smiley, jeune ministre de l'Évangile, qui, lui disait-on, avait résidé quelque temps au camp de l'Ange. J'ajoutai que si M. Weller pouvait me donner des renseignements sur ce Leonidas William Smiley, je lui aurais beaucoup d'obligations. Simon Weller me poussa dans un coin, m'y bloqua avec sa chaise, puis s'assit, et dévida la monotone narration suivante. Il ne sourit pas une fois, il ne sourcilla pas une fois, il ne changea pas une fois d'intonation, et garda jusqu'au bout la clé d'harmonie sur laquelle sa première phrase avait commencé. Pas une fois, il ne trahit le plus léger enthousiasme. Mais à travers son interminable récit, courait une veine impressionnante de sérieux et de sincérité. Il me fut prouvé jusqu'à l'évidence qu'il ne voyait rien de ridicule ou de plaisant dans cette histoire. Il la considérait, en vérité, comme un événement important et voyait avec admiration dans ses deux héros des hommes d'un génie transcendant sous le rapport de la finesse. Je le laissais donc parler sans l'interrompre une seule fois. Le révérend Leonidas William Smiley. Parfaitement. Il y avait ici autrefois un gaillard nommé Jim Smiley. C'était dans l'hiver de 1849. Ou peut-être au printemps de 1850, je ne me rappelle pas exactement, mais ce qui me fait penser que c'était dans les environs de ce temps-là, c'est que je m'en souviens, le grand barrage de la rivière n'était pas terminé quand il arriva au camp. Et toujours est-il que jamais on ne vit homme plus curieux. Il pariait à propos de tout ce qui se présentait, pourvu qu'il trouvât un parieur. Tout ce qui allait à l'autre lui allait. Il lui fallait trouver son homme. Ah, alors il était satisfait. Si l'on n'acceptait pas de parier dans un sens, il changeait de parti avec l'adversaire. Il avait d'ailleurs une chance extraordinaire et gagnait presque sans manquer. Smiley aurait vu une punaise, la jambe levée pour aller n'importe où, qu'il aurait parié sur le temps qu'elle mettrait à y arriver. Et si vous l'aviez pris au mot, il aurait suivi la punaise jusqu'au Mexique, sans s'inquiéter de la longueur du voyage ou du temps qu'il serait en route. Il y a des tas de gens ici qui ont connu ce Smiley et qui pourront vous parler de lui. Sans aucune préférence, il eût parié sur n'importe quoi. C'était un gaillard décidé. La femme du pasteur Walker, à une époque, fut très malade. Sa maladie dura longtemps. Il semblait qu'on ne dût pas la sauver. Mais un matin, le pasteur entra et Smiley lui demanda des nouvelles. Il répondit qu'elle était mieux grâce à l'infinie miséricorde du Seigneur et qu'elle allait si gentiment qu'avec la bénédiction de la Providence, elle finirait par s'en tirer tout à fait. Et Smiley, avant même d'y penser, lui dit « Je la prends morte à 2,5 ». Ce Smiley avait des terriers, des coqs de combat, des chats et toutes sortes d'animaux semblables, au point qu'on n'avait pas de repos et que vous aviez beau chercher n'importe quoi pour parier contre lui, il était toujours votre homme. Il attrapa un jour une grenouille, l'emporta chez lui et dit qu'il voulait faire son éducation. Mais pendant 3 mois, il ne fit rien que lui apprendre à sauter, et je vous parie tout ce que vous voudrez qu'il le lui apprit. Il n'avait qu'à lui donner une petite poussée par derrière, et aussitôt, on voyait la grenouille tourner en l'air comme une crêpe, faire une culbute ou deux, si elle avait pris un bon élan, et puis retomber sur ses pattes avec la dextérité d'un chat. Il l'avait dressée aussi dans l'art d'attraper les mouches, et il l'avait exercée si patiemment qu'elle clouait une mouche contre le mur du plus loin qu'elle la voyait. Smiley disait que tout ce qu'il fallait à une grenouille, c'était l'éducation, et que l'on pouvait en faire à peu près ce qu'on voulait. Et je crois bien qu'il avait raison. Tenez, je l'ai vu poser Daniel Webster là, là sur le plancher. Daniel Webster, c'était le nom de la grenouille. Et lui chantait « Des mouches, Dan, des mouches !» Et avant que vous eussiez cligné de l'œil, elle faisait un bond, happait une mouche, ici sur le comptoir, et retombait sur le plancher comme un paquet de boue, et se mettait à se gratter la tête avec sa patte de derrière, d'un air aussi indifférent que si elle n'avait pas eu la moindre idée d'avoir fait autre chose que ce que toute autre grenouille pouvait faire. Vous n'avez jamais vu une grenouille aussi modeste et aussi franche, dressée comme elle l'était. Et quand il s'agissait de sauter à tout moment et tout simplement sur un terrain plat, elle franchissait plus d'espace en un saut qu'aucune bête de son espèce. Le saut en longueur était son triomphe. Dans ces cas-là, Smiley pontait son argent sur elle tant qu'il avait un rouge liard. Il était monstrueusement fier de sa grenouille, et il en avait le droit. Car des gens qui avaient voyagé et qui avaient été partout disaient qu'elle battrait toutes les grenouilles qu'ils avaient jamais vues. Très bien. Smiley gardait sa grenouille dans une petite boîte à treillis et l'emportait parfois avec lui à la ville pour parier. Un jour, un individu étranger à notre camp le rencontre avec sa boîte et lui dit « Que diable avez-vous dans là-dedans ?» Smiley, d'un air indifférent, lui répond « Ce pourrait être un perroquet ou un canari, mais non, c'est justement une grenouille. » L'autre la prit, la regarda attentivement, la tourna dans tous les sens, puis dit « C'est tout de même vrai. Et à quoi est-elle bonne ? » Ma foi, dit Smiley d'un air dégagé et insouciant, elle est bonne pour une chose, à mon avis. Elle peut battre à sauter n'importe quelle grenouille de Calaveras. L'individu reprit la boîte, l'examina de nouveau longuement, attentivement, et la rendit à Smiley en disant d'un air décidé, « Après tout, je ne vois dans cette grenouille rien de mieux que dans n'importe quelle grenouille. » « C'est possible, dit Smiley. » Peut-être que vous vous y connaissez en grenouille et peut-être que vous ne vous y connaissez pas. Il se peut que vous ayez de l'expérience, il se peut que vous ne soyez qu'un amateur. Dans tous les cas, j'ai mon opinion et je parie $40 que cette grenouille saute plus loin qu'aucune grenouille de Calaveras. L'autre réfléchit une minute, puis dit avec une sorte de tristesse, « Voilà, je ne suis ici qu'un étranger, je n'ai pas de grenouille. Si j'en avais une, ben, je parierais. »« Très bien, dit Smiley, si vous voulez tenir ma boîte un instant, je vais vous en chercher une. » L'individu prit la boîte, posa ses $40 à côté de ceux de Smiley et s'assit pour attendre. Il demeura là un bon moment, à réfléchir et réfléchir. Puis, il sortit la grenouille de la boîte, lui ouvrit la bouche toute grande, et prit d'autre part une cuillère à thé. Il se mit alors à emplir la grenouille de petits plombs, il la remplit jusqu'au menton, et la reposa sur le sol délicatement. Pendant ce temps, Smiley, qui était allé à la mare, barbotait dans la boue. À la fin, il attrapa une grenouille, la porta, et la donna à l'individu en disant « Maintenant, si vous êtes prêt, mettez-la à côté de Daniel, avec ses pattes de devant au niveau de celles de Daniel, et je donnerai le signal. » Alors il dit une, deux, trois, sautez. Et Smiley et l'individu touchent chacun sa grenouille par derrière. La nouvelle grenouille saute vivement. Daniel fait un effort et hausse les épaules comme cela, et où, comme un Français, mais en vain. Elle ne pouvait bouger. Elle était plantée en terre aussi solidement qu'une église. Elle ne pouvait pas plus avancer que si elle eût été à l'ancre. Smiley était passablement surpris et même dégoûté, mais il ne pouvait pas soupçonner ce qui s'était passé, bien sûr. L'individu prit l'argent et s'en alla. Mais quand il fut sur le pas de la porte, il fit claquer son pouce par-dessus son épaule, comme cela, d'un air impertinent, en disant avec assurance « Je ne vois dans cette grenouille rien de mieux que dans une autre. » Smiley demeura un bon moment, se grattant la tête, les yeux penchés vers Daniel. À la fin, il se dit « Je ne comprends pas pourquoi cette grenouille a refusé de sauter. N'aurait-elle pas quelque chose ? Elle m'a l'air singulièrement gonflée dans tous les cas. » Hein, il saisit Daniel par la peau du cou et la soulève et s'écrie « Le diable m'emporte si elle ne pèse pas 5 livres !» Il la retourne sans dessus-dessous et Daniel crache une double poignée de plomb. Ah, alors il comprit et il devint fou de fureur, posa la grenouille et courut après l'individu, mais il ne put le rattraper. Et à... Ici, Simon Weller entendit qu'on l'appelait de la cour et sortit pour voir qui c'était. Se tournant vers moi, en sortant, il me dit « Demeurez là, étranger, ne craignez rien, je ne serai pas dehors une seconde. » Mais on m'approuvera si je pensais que la suite de l'histoire de l'industrieux vagabond Jim Smiley ne me donnerait vraisemblablement pas beaucoup d'indications concernant le révérend Leonidas William Smiley. Aussi je partis. À la porte, je rencontrai l'aimable Weller qui s'en revenait. Il me prit par le bouton de ma veste et en commença une autre. Oui, ce Smiley avait une vache jaune qui était borgne et qui n'avait pas de queue, ou presque pas. Juste un petit boulon comme une banane et alors... Mais je n'avais ni le temps ni le goût. Je n'attendis pas la suite de l'histoire de la vache sympathique et pris congé.
Vous venez d'entendre Nouvelles du monde entier, une émission d'Alain Bosquet et Harold Portnoy. La nouvelle d'Ambrose Bierce, L'imparfaite conflagration, était lue par Patrice Galbeau. Celle de Mark Twain, La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras, par Henri Virlogeux. Réalisation, Jeanne Weiss.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 31 octobre 1961.